Et sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Le patron du foot français est dans l'erreur. Noël Le Graët recadré par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Après ses propos sur l'homophobie dans les stades, différentes du racisme et qui ne méritent pas d'arrêter un match. Scandale et appel à la démission, vous les entendrez. Et nous sommes au Stade de France avant le match des Bleus ce soir contre l'Andorre. Un an de voyage sur les routes américaines. Son Leica en bandoulière, plus de 28 000 photos. Un livre de 83 clichés à l'arrivée. Robert Franck vient de mourir. Hommage dans ce journal de Raymond Depardon à l'auteur des Américains. Au sommaire également ce soir, Trump qui vire John Bolton, usant le boulot de conseiller à la sécurité à la Maison Blanche. Les urgences qui restent en grève après les mesures d'Agnès Buzyn hier. Gina Davis qui défend les femmes à Hollywood au festival de Deauville. Et au téléphone sonne Fabienne, les pompiers.
Eh bien ouais, bon, Sébastien, saviez-vous que les pompiers étaient en grève depuis le mois de juin? Bah pas vraiment en fait, puisqu'on n'en parle pas beaucoup. Et que techniquement, les pompiers, c'est comme les urgences d'ailleurs. Il suffit d'un brassard, évidemment, ils travaillent quand même. Et le blues est bien là, sursollicité, caillassé souvent, des gardes de 24 heures parfois. Leur grève se confond d'ailleurs avec celle des urgences. Et on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. Un président devrait-il dire ça? Le patron de la Fédération Française de Football peut-il faire la différence entre les discriminations distinguées, racisme et homophobie, comme il l'a fait ce matin chez nos amis de France Info à propos des matchs interrompus par les arbitres pour des banderoles douteuses? Je cite Noël Le Graët, j'arrêterai un match pour des cris racistes, des incidents s'il y a danger. Le racisme et l'homophobie, ce n'est pas la même chose. La semaine dernière, il trouvait dans West France qu'on arrêtait trop de matchs pour des manifestations homophobes et il mettait en cause la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui parle aujourd'hui d'erreur et qui l'appelle à prendre ses responsabilités.
La position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire. Bah en fait, je me suis dit, on n'est qu'au début du chemin. Si les dirigeants du football français, le plus grand des dirigeants, le président de la fédération, est capable de dire une chose pareille, eh bien le travail ne fait que commencer, je pense. De toute façon, j'étais consciente que ça allait pas se faire du jour au lendemain, puisque ça faisait des années et des années que c'était dans les stades et qu'à la limite, ça ne choquait personne, ni les spécialistes, ni les moins spécialistes. Si maintenant, Monsieur Le Graët veut donner d'autres instructions à ses arbitres, je l'invite à venir en discuter avec nous également, parce que ça nous concerne au même titre que les arbitres, au même titre que sa fédération et que le monde du football.
En attendant de nouvelles discussions, Monsieur Le Graët, 77 ans, espère que sa nouvelle consigne sera prise en compte dès la prochaine journée de championnat, puisque les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 dépendent de la fédération et d'un peu partout. Critiques et appels à la démission se font entendre. Avant d'aller au Stade de France, restons à l'Assemblée. Voici d'abord le député RN Sébastien Chenu avec Maxence Lambrecq.
Ou on interdit tout, ou on interdit rien, parce que faire le tri, c'est ridicule. Ou alors, on fait un travail en amont avec les clubs, y compris un travail d'incitation, un travail de sanction, qu'on peut imaginer, on les réunit et on voit.
Propos un peu plus mesurés de la part de l'ancienne ministre des Sports communiste, Marie-Georges Buffet, avec Nicolas Taillard.
On ne peut pas faire d'échelle d'horreur entre les différentes dérives qui traversent la société, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Il faut combattre toutes ces dérives. Je connais le président Le Graët depuis de nombreuses années. Je l'ai connu comme un homme portant des valeurs, etc. Donc, il va certainement être amené à s'expliquer.
Marie-Georges Buffet est dans les tribunes du Stade de France. Qu'en dit-on? Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Sébastien.
Alors que l'équipe de France reçoit l'Andorre tout à l'heure en qualification pour l'Euro l'an prochain, le patron du foot français a des soutiens.
Oui, en tout cas un soutien des acteurs qui ont souhaité s'exprimer après la déclaration de ce matin. Bernard Caillazot, c'est le coprésident de la AS Saint-Etienne. Il est surtout président du syndicat Première Ligue, c'est-à-dire le syndicat qui représente les clubs professionnels. Et bien Bernard Caillazot, il apporte un soutien sans faille à Noël Le Graët. Arrêter les matchs, ça ne sert à rien, dit-il. Il ajoute que le président de la Fédération Française de Football est un homme compétent qu'il faut écouter. Et il a raison, dit Bernard Caillazot, de faire la différence entre racisme et homophobie. Jean-Michel Aulas, de son côté, le président de l'Olympique Lyonnais, eh bien, il est un petit peu plus modéré. On peut arrêter des matchs, dit-il, mais seulement dans certains cas extrêmes. Il faut appliquer cela avec modération, autrement ce sera un jouet utilisé par des groupes de supporters. Alors ce qui est sûr, Sébastien, c'est que cette prise de position de Noël Le Graët, elle va faire bouger les choses avec le gouvernement, puisque Roxana Maracineanu, que l'on vient d'entendre, elle ne devait pas venir ce soir au Stade de France. France, mais elle devrait finalement être là, selon nos informations. La présence d'Emmanuel Macron, en revanche, n'est pas confirmée, mais on ne nous a pas dit qu'il ne viendrait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 8 mois, eh bien, ce dossier n'avance pas entre les instances du football français et le gouvernement. Mais là, on sent quand même d'un côté comme de l'autre et qu'il y a urgence à se poser autour d'une table plutôt que de se répondre par médias interposés.
On se demande même si ce dossier n'a pas reculé aujourd'hui. Merci Cédric Guillou en direct du Stade de France. Et puis on espère qu'au choc des mots de Noël Le Graët ne sera pas associé le poids de l'hymne. Je dis ça pour le speaker et la régie du Stade de France. Ce soir, c'est l'Andorre, les gars, c'est pas l'Albanie.
Il a photographié l'Amérique comme personne avant lui.
Robert Franck est mort hier au Canada, 94 ans, et un livre majeur dans l'histoire de l'art, Les Américains, paru en 1959 aux États-Unis, des images en noir et blanc à hauteur d'homme, des blancs et des noirs qui regardent l'objectif sur la route depuis un bus, une serveuse devant un stand de hot dog ou un homme qui hésite devant un jukebox, des autos alignées devant l'écran de cinéma en plein air. Robert Franck racontait l'Amérique de ses voyages dans cet ouvrage, préfacé d'ailleurs par l'écrivain Jack Kerouac, l'auteur de Sur la route. Et c'est un autre très grand de la photo qui lui rend hommage ce soir sur Inter, Raymond Depardon.
C'est le photographe le plus moderne qui existe, avec Walker Evans peut-être. Une photo de Robert Franck, c'est quelque chose qui est une pensée qui vagabonde et sa captation nous intrigue. Elle est d'une dimension onirique, philosophique. Et les photographes d'aujourd'hui ont tout à prendre à lui, quoi, parce qu'il n'a pas bougé, quoi. Il n'a pas vieilli une seconde depuis les années 50, au moment où il a fait ses photos des États-Unis, hein, comme le voyage sur la route de Kerouac. Il cassait complètement l'exotique.
Et pourtant, son premier livre, Les Américains, a reçu un accueil mitigé.
Oui, parce que moi, je me souviens de l'avoir acheté aux États-Unis dans les années 80. En solde, parce que les Américains n'aimaient pas se voir, ils se voyaient en pionniers, ils ne veulent pas se regarder. Ces photos de Robert Franck montrent une Amérique qui est réelle, qu'on ne voit même pas dans les films de fiction, qu'on ne voit même pas à la télévision, qu'on devine dans les grands romans américains. C'est là où il atteignait peut-être sa plus grande force, c'est qu'il est aussi fort que la littérature.
Raymond Depardon avec Ilana Mourioussef. Il citait Walker Evans qui disait de Robert Franck qu'il produisait un sentiment par image. Robert Franck avait 94 ans. Et toutes ces photos sont évidemment sur franceinter.fr. L'Amérique encore, mais celle d'aujourd'hui, celle de Trump, le président américain qui annonce ce soir un nouveau départ dans son administration. Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, démissionne alors qu'il était en poste depuis 16 mois. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
C'est le troisième conseiller à la sécurité nationale en 2 ans et demi de mandat.
Oui, et vous savez que désormais les limogeages se font sur Twitter. Donald Trump écrit sur le réseau social qu'il a informé John Bolton hier soir que la Maison Blanche n'avait plus besoin de ses services. Le président américain précise « J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions ». Sur le même réseau social, Bolton répond que c'est lui qui a proposé sa démission et que les deux hommes devaient en parler aujourd'hui. Alors au-delà de la forme de ce départ, le président et son conseiller en politique étrangère étaient en désaccord profond sur de nombreux dossiers. Venezuela, Corée du Nord, Iran, Afghanistan. Sur l'Iran, le faucon Bolton avait désapprouvé la visite du président Rouhani lors du G7 en France. Sur l'Afghanistan, il n'avait pas eu son mot à dire sur la réunion secrète prévue avec les talibans dimanche à Camp David et finalement annulée à la dernière minute. John Bolton était littéralement marginalisé depuis plusieurs semaines à la Maison Blanche. Donald Trump promet qu'il nommera son prochain conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine, le quatrième, vous l'avez dit, en 2 ans et demi passé à la Maison Blanche.
Grégory Phillips, merci. Et puis toujours aux États-Unis, cette attaque groupée contre Google, les procureurs de presque tous les États ouvrent une enquête contre le géant américain d'Internet, accusé d'écraser de nombreux marchés partout dans le monde avec sa recherche en ligne, avec Android ou encore sur la publicité. La justice en France, à présent, avec cette information du Canard Enchaîné, confirmée par plusieurs sources, le téléphone portable de Steve Maya Canisso, qui est mort le soir de la fête de la musique à Nantes. Son portable bornait bien au moment de l'intervention de la police. L'IGPN, la police des polices, disait dans son rapport en juillet que l'appareil déclenchait un relais plus d'une heure avant l'action des forces de l'ordre. Et pour Édouard Philippe, il n'y avait donc pas de lien entre cette intervention controversée et la mort du jeune homme. Une double journée pour Sylvie Goulard, entendue par les policiers, elle, sur les soupçons d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen. Le jour où elle est effectivement choisie comme commissaire européen, l'ancienne ministre de la Défense hérite du portefeuille marché intérieur qui englobe politique industrielle, marché unique numérique ainsi qu'industrie de la défense et de l'espace, portefeuille essentiel et central, se félicite l'Élysée, alors qu'un autre portefeuille fait grincer des dents à Bruxelles, celui du grec Margaritis Chinas, intitulé « Protection de notre mode de vie européen » qui regroupe le dossier des migrations, choquant pour le député européen Raphaël Glucksmann au micro de Johanna Hochstein.
Un commissaire à la protection de notre mode de vie européen en charge des migrations. Ça assume d'emblée que les migrants dérangent notre mode de vie. C'est le retour, en fait, du ministère de l'identité nationale de Sarkozy à l'échelle européenne. C'est une capitulation en race campagne devant les populistes et les nationalistes qui gagnent du terrain en Europe. C'est pas comme ça qu'on mène le combat. C'est pas comme ça qu'on assume les principes de la construction européenne. C'est pas comme ça qu'on défend l'état de droit et les droits humains. Eh bien, on va obliger la Commission, lors des auditions, à d'abord nous dire ce qu'elle entend par protéger notre mode de vie et ensuite à changer l'intitulé de cette vice-présidence de la Commission qui, encore une fois, dans sa formulation même, suppose que l'émigration est un danger pour notre mode de vie. On ne traite pas des questions migratoires comme cela. Ursula von der Leyen a eu des mots plus humanistes devant le Parlement pour être adoubée. Eh bien, il va falloir revenir au discours originel, sinon ça ne passera pas.
En bref, à l'étranger, Israël, le pays est en campagne et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais tout de même, Benjamin Netanyahou promet d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie s'il remporte les législatives de mardi prochain. Cela ruinerait toute chance de paix, préviennent déjà les Palestiniens.
La grève dans les urgences va se poursuivre.
Oui, les mesures annoncées hier par Agnès Buzyn ne suffisent pas pour les personnels en grève depuis 6 mois. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir Sébastien.
Ils étaient réunis une bonne partie de la journée à Saint-Denis et ont donc voté la poursuite de la grève.
Oui, environ 150 représentants des grévistes venus de toute la France, réunis pendant plus de 4 heures de discussion cet après-midi. Mais au final, le constat est simple. Abdel Douga fait partie des fondateurs de l'interurgence.
On est au même stade, rien n'a changé et on reste toujours sur les mêmes revendications de départ. Donc le mouvement continue et on va amplifier le mouvement.
Les soignants réclament toujours plus de postes, plus de lits et de meilleurs salaires. Et ils espèrent désormais une convergence des luttes dans tout l'hôpital, explique Swan, porte-parole de l'interurgence en Bourgogne-Franche-Comté.
On appelle l'ensemble des hospitaliers à nous rejoindre. Donc que ça soit médecins, infirmiers, brancardiers, ASH, agents administratifs, on appelle à une mobilisation générale. Tout l'ensemble des personnes qui prennent en charge, ou en tout cas qui prennent soin de l'hôpital pour pouvoir prendre en charge correctement les patients.
Car les 750 millions promis aux urgences par Agnès Buzyn risquent d'être prélevés sur d'autres services, rappelle le collectif. Le docteur Renaud Péquignot, président de l'intersyndicale Avenir Hospitalier, compte appeler ses collègues médecins à rejoindre le mouvement.
On ne peut pas se contenter d'un beau diagnostic et de belles annonces si derrière il n'y a pas le financement. Il y a certains médecins qui pensent qu'on a réellement obtenu quelque chose, mais à titre personnel, j'appellerai à ce que les médecins rejoignent cette grève.
La CGT appelle à une première manifestation demain à Paris et le collectif prévoit une journée de grève nationale le 26 septembre prochain.
Lisa Guyenne et Olivia Branger en direct de Saint-Denis, merci à toutes les deux. Les enseignants français toujours sous la moyenne des pays de l'OCDE en matière de salaire, 7% de moins en moyenne en début de carrière, 20% de moins en milieu de carrière. Un profit à près de 28 000 euros brut par an dans le primaire contre près de 30 000 dans le reste des pays de l'OCDE. La France en dessous de la moyenne aussi sur l'encadrement des enfants en maternelle, alors que le gouvernement veut donner la priorité aux petites classes en cette rentrée avec l'instruction obligatoire à 3 ans. Les faiblesses de la maternelle française analysées par Éric Charbonnier, expert éducation à l'OCDE.
Vous avez en maternelle un enseignant pour 23 élèves, la moyenne des pays de l'OCDE de 16 élèves, donc c'est nettement au-dessus. Après, quand on regarde aussi les aides, les assistants, on constate qu'on arrive à un personnel travaillant dans la petite enfance pour 16 enfants, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est de 14 à ce moment. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la réflexion serait de mieux former aussi les ATSEM, de permettre à ces agents territoriaux d'avoir des compétences qui leur permettent d'aider les enseignants aussi sur le volet pédagogique parce qu'ils auront une importance dans le bon fonctionnement des cours. Et ce qui est intéressant sur ces taux d'encadrement, vous avez des grandes différences. Dans certaines grandes villes, vous avez plus de 30 élèves par enseignant. Dans des zones rurales, on est à moins de 20 élèves par enseignant. Donc il faut avoir aussi une réflexion décentralisée pour que les enfants aient les mêmes moyens, parce qu'on sait bien qu'à ces âges-là, des taux d'encadrement plus avantageux peuvent permettre de travailler de façon plus personnalisée sur le développement du langage avec les jeunes enfants.
Éric Charbonnier de l'OCDE au micro de Sonia Princem.
Et revoilà le grand débat.
Oui, c'est quasiment ça. En ce moment, dans un entrepôt de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, sur un chantier d'insertion par l'activité économique, Emmanuel Macron défend avec Muriel Pénicaud les premiers effets du plan pauvreté présenté il y a un an, alors qu'il y a toujours autour de 9 millions de pauvres dans notre pays. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Et pour faire ce premier bilan, Cyril, le chef de l'État a donc choisi une nouvelle fois une discussion.
Et pour sa rentrée nationale sur le terrain, Emmanuel Macron n'est pas venu faire que le SAV de son plan pauvreté. Il a surtout beaucoup écouté les témoignages, comme Frédéric, qui a lancé son projet, recycler des camions frigorifiés pour en faire des abris pour les SDF. Depuis un an et demi, il remue ciel et terre.
Je trouve dommage qu'au bout d'un an et demi, vos services, monsieur le Président, ne se sentent toujours pas concernés par ça, quoi. Vraiment. Écoutez, non. La seule ville aujourd'hui vraiment impliquée, c'est Lyon. Avant que M. Colomb n'y revienne d'ailleurs, c'est l'armée du salut. Bah, je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Maintenant, voilà. Ce que j'aime, c'est que ça bouge vraiment.
Pendant près de 2 heures, les paroles se succèdent, toujours sur un ton très poli. Le chef de l'État n'a pas répondu un à un, mais il a livré une vision plus globale.
Je crois très sincèrement que la pauvreté, c'est pas un statut. Et que l'entrepreneuriat, c'est pas réservé aux start-up. Et vous avez d'ailleurs formidablement démontré le contraire. Le mot d'entreprendre, on l'a trop réservé à la sphère économique. Le mot d'innover, on a trop considéré que c'était uniquement fait pour de la technologie de nouveau type. Vous êtes toutes et tous, et vous l'avez montré, des entrepreneurs qui innovaient.
Le président, lui, n'innove pas vraiment sur la méthode. En cette rentrée où il veut se montrer plus proche des Français, Emmanuel Macron a décidé de recycler un grand débat qui a fait ses preuves.
Cyril Graziani avec Martin Troadec en direct de Bonneuil-sur-Marne. La politique encore, avec la rentrée des députés de la majorité à l'Assemblée sur fond de dissidence au municipal. On pense bien sûr d'abord à Cédric Villani à Paris. Le mathématicien reste dans les rangs En Marche. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Mais ses soutiens n'auront pas le droit à ce traitement de faveur. Expliquez-nous.
Oui, parmi les députés de la majorité, vous avez ceux plutôt nombreux qui soutiennent le candidat officiel, Benjamin Griveaux, et puis vous avez aussi en face, dans l'autre camp, ceux qui sont derrière Cédric Villani. Autrement dit, le risque qu'est en train de courir le groupe de La République En Marche à l'Assemblée, c'est de se livrer à des écuries politiques. Et ça, pour le patron de la majorité, Gilles Legendre, il n'en est pas question.
Nous ne voulons pas que les municipales deviennent le sujet essentiel de préoccupation et de débat du groupe. Et je ne veux pas que s'invite dans la vie du groupe une sorte de compétition. Ça, là-dessus, je serai très ferme. Il se pourrait même que je devienne un peu raide.
Donc il y aura quelques mesures de rétorsion. Les députés qui auraient la mauvaise idée d'afficher ostensiblement leur soutien à un candidat dissident pourraient, par exemple, avoir plus de difficultés pour accéder à certaines missions ou à certaines responsabilités. Ce qui ne choque pas les députés de la majorité, Jean-François Cesarini a déjà été sanctionné par le groupe, par le passé, et pour lui, cela n'a rien changé.
Mais il faut comprendre qu'en face de nous, on a des députés assez nouveaux, qui n'ont pas de carrière derrière, avec qui on peut pas leur faire miroiter une investiture ou que sais-je, et qui disent « voilà, moi je suis venu aider mon pays pendant 5 ans, j'essaie d'être libre, j'essaie d'être en accord avec mes principes, et je crois que c'est la force de ce groupe, même si évidemment c'est pas facile à gérer ».
Surtout qu'au-delà de Paris, il y a au total une vingtaine de députés de La République En Marche qui devraient être investis, tête de liste. Certes, il n'y aura pas partout des concurrents dissidents, mais ces premières municipales à passer pour le groupe de la majorité pourraient vite se transformer en vraie pagaille à surmonter.
Karine Bécard, on termine à Deauville au Festival du film américain avec hors compétition aujourd'hui le documentaire produit par Gina Davis qui jouait Thelma dans Thelma et Louise en 91. Nolwenn Lejeune, l'actrice est très engagée pour la représentation des femmes à Hollywood.
Elle était la timide dans Thelma et Louise, qui pour échapper à un mari tyrannique partait dans une folle virée avec sa copine. Sorti en 91, le road movie reste un emblème d'émancipation féminine. Pourtant, la situation à Hollywood est toujours aussi catastrophique, se désespère Gina Davis. L'institut qu'elle a créé en 2004 a recueilli des données accablantes. On trouve derrière la caméra aux États-Unis seulement 4% de femmes et devant environ 3 personnages masculins pour un féminin. Le documentaire met en avant des années de discrimination à Hollywood et cela commence malheureusement dès le plus jeune âge. exemple frappant dans un innocent dessin animé comme Nemo, que des petits poissons pour une seule héroïne fille. L'actrice déplore également que les rôles féminins soient créés spécifiquement s'il faut une femme. Une petite amie, par exemple, mais pas si c'est pour jouer un patron, un juge ou un avocat. Je dis c'est moi plutôt que Liam Neeson, plaisante-t-elle. Nous sommes aussi grands l'un que l'autre. Son documentaire, présenté ce soir à Deauville, sortira début janvier en France.
Et il s'appelle donc « Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood ».
Et oui, et si. Sébastien Power pour le journal, merci beaucoup. On se retrouve évidemment demain. Et puisqu'on est bien ensemble, et ben on reste ensemble avec le téléphone sonne. C'est dans un instant, même s'il a l'air de faire assez beau dehors.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac, amélioration même pour le sud demain.
Oui, les pluies encore présentes sur le sud-est ce soir vont s'espacer. Il restera juste quelques gouttes demain matin entre les Pyrénées et le Roussillon, mais le soleil reviendra l'après-midi. Sur les autres régions du sud, là vous aurez du soleil dès le matin. De la Bretagne au nord de la Seine, ce sera souvent gris, en revanche avec parfois quelques pluies éparses. Entre le Poitou, les Pays de la Loire, la région parisienne, quelques brouillards possibles, des nuages élevés, de plus en plus épais au fil de la matinée, et puis du centre jusqu'au nord-est, là aussi ça s'ennuagera bien l'après-midi.
Avec des températures encore fraîches quand même le matin.
Seulement 3 degrés à Nevers, 4 à Aurillac, 6 à Reims et à Limoges, mais 13 degrés à Paris, à Biarritz, 18 à Nice. Et l'après-midi, on aura des valeurs de saison avec 19 degrés à Lille, 23 à Paris, Strasbourg, Angers, 24 à Lyon, 25 degrés à Bourges, à Toulouse, 29 à Ajaccio. Ça va monter jusqu'au week-end qui sera estival partout avec du soleil.
Élodie Calac de Météo France. Merci Élodie.